carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Priscille Lafitte.
Bonjour Daniel Piston.
Bonjour.
Vous êtes musicologue, vous enseignez à la Sorbonne, vous êtes membre correspondant à l'Académie des Beaux-Arts. Et vous avez consacré au compositeur Hector Berlioz, qui fut aussi académicien, un livre, une biographie originale intitulée « Berlioz, hier et aujourd'hui ». Une biographie originale car vous prenez la vie de Berlioz à contre-pied en mettant en évidence ses aspirations non exaucées, son décalage avec la musique de son époque, son adéquation peut-être avec notre musique d'aujourd'hui et toutes les contradictions de Berlioz. Vous avez également écrit un article intitulé « Les musiciens français à Rome » qui a été publié dans la Revue internationale de musique française. C'est également un regard décalé sur Berlioz que nous allons développer à présent. Il s'agit de comprendre les œuvres de Berlioz au regard de son voyage à Rome. Berlioz n'a séjourné qu'une fois en Italie, pendant un an et demi, à la Villa Médicis en tant que lauréat du Grand Prix de Rome. Alors revenons un instant avant de parler du séjour à Rome à proprement parler sur l'obtention de ce Grand Prix de Rome, un prix qui sanctionne les études au Conservatoire de musique de Paris et que tout compositeur digne de ce nom se doit de remporter à cette époque pour avoir quelque espoir de faire carrière au XIXe siècle. Alors Berlioz, la première fois qu'il tente le Grand Prix de Rome n'est pas au Conservatoire justement.
Alors la toute première fois, c'était 1826. Il n'a pas été admis à l'entrée en loge. Et tous les ans, ensuite, il a tenté ce prix de Rome. Il faut bien voir effectivement que Berlioz, issu d'une famille bourgeoise, avait une formation musicale peu commune à l'époque. La flûte, la guitare, bon, cette guitare d'ailleurs qu'il emportera à Rome, et qu'il y a chez lui un aspect autodidacte qui est très important et qui fera d'ailleurs qu'au fil des présentations au prix de Rome, sa musique sera jugée inexécutable. Alors il dira « c'est parce qu'on m'a joué au piano, pour moi il faut l'orchestre ». Parce qu'il est vrai que pour choisir le lauréat, on écoutait les cantates dans la version pianistique. Donc de ce point de vue-là, Berlioz était très mal servi. Donc il n'est pas autorisé à présenter le concours en 26, en revanche en 27, en 28, en 29 et en 1830. Il est admis à concourir, donc c'est la fameuse mise en loge de 22 jours. Et au terme de cette mise en loge, donc, où il faut écrire une cantate sur un poème donné, un poème dont il se moque d'ailleurs en disant que ce sont toujours les mêmes images et toujours les mêmes idées. Alors en 1830, c'était la mort de Sardanapale et c'est cette mort de Sardanapale qui lui a valu le premier Grand Prix, donc l'honneur du séjour à la Villa Médicis.
Un Grand Prix qu'il obtient enfin et qui, dit-il, ne le représente pas trop en fait dans son genre de composition à l'époque.
Il dira de sa mort de Sardanapale, je cite Berlioz, « C'est un ouvrage fort médiocre, qui ne représente pas du tout ma pensée musicale intime. Il y a fort peu de choses que j'avoue. Cette partition n'est pas au niveau de l'état actuel de la musique, elle est pleine de lieux communs, d'instrumentation triviale que j'ai été forcé d'écrire pour avoir le prix. » Parce que en 1829, il n'avait pas obtenu ce premier prix parce que son écriture n'était pas conforme à ce qu'attendaient les membres de l'Institut. Donc, il avoue que la mort de Sardanapale n'est pas tout à fait son style. Pour montrer peut-être un peu plus de lui-même, d'ailleurs, il va ajouter un final lors du concert des lauréats avant de partir en Italie, un final absolument grandiose, ninivite. Comme il les aimait.
Alors cette même année de 1830, il crée la Symphonie fantastique, qui est le contre-pied de Sardanapale, pour le coup.
Tout à fait. Et ce concert du 5 décembre 1830 reste gravé dans son souvenir, et sans doute dans le souvenir de quelques autres, puisqu'il avait fallu ce beau concert pour que Madame Mock, la mère de la pianiste Camille Mock, que Berlioz aimait, consente à lui laisser sa fille lorsqu'il reviendrait d'Italie. Mais comme on le sait, ce ne fut qu'un leurre, puisque Berlioz, une fois parti, c'est Camille Pleyel, beaucoup plus âgée que Berlioz, et surtout beaucoup mieux nantie, que Camille Mock devait épouser. Camille Pleyel le regrettera d'ailleurs.
C'est donc avec une œuvre qu'il a composée à contre-cœur que Berlioz part en Italie, et c'est pour d'autres raisons, vous le disiez, des raisons sentimentales, que Berlioz aussi, il va à reculons en Italie.
Ah oui, il fait d'ailleurs tout pour ne pas y aller. En septembre 1830, il se fait faire un certificat médical, disant qu'il ne supporte pas les fortes chaleurs. Mieux que ça, il écrit au ministre,
à Guizot.
Il écrit à Guizot, en lui disant que les engagements qu'il a avec les théâtres ne lui permettent pas de se conformer au règlement. Malheureusement, le ministre lui répondra que s'il veut toucher cette pension pour laquelle il avait concouru, certes, il faut qu'il parte en Italie. Alors que les autres arrivent généralement à Rome au début du mois de janvier, lui partira le 30 décembre 1830. Et il lui faudra plusieurs mois, puisqu'il ne rejoindra la villa que le 10 mars 1831.
Quelle est donc cette personnalité paradoxale de Berlioz qui lui fasse faire des choses qui le déchirent comme ça dans son fort intérieur ?
Berlioz n'aime pas être contraint. Il l'a dit, il l'a écrit. Et puis, il y a une question de goût. Berlioz rêve d'un style de musique qui n'est certes pas celui de l'opéra italien. Il écrira sur Bellini des pages proprement atroce lorsqu'il verra l'un de ses opéras à Florence, par exemple, au cours de son voyage. Il n'aura pas plus de sympathie, d'ailleurs, pour les autres compositeurs italiens. Il faut dire, d'ailleurs, que quand il sera élu membre de l'Institut, en 1856, le seul qui sera tout à fait contre lui, ce sera Carafa, encore. Décidément, l'Italie le poursuit. Et c'est peut-être une préfiguration de ce destin que ce sentiment qu'il a de ne pas devoir quitter Paris en 1830. Mais le ministre n'a pas cédé, donc Berlioz part. Et il part d'une façon différente de ses camarades. En général, quand on avait obtenu le prix de Rome, on partait dans un voiturin à la rue Guénégo, qu'on prenait la rue Guénégo, et on arrivait en plusieurs semaines à la Villa Médicis. Il faut imaginer la poussière, cette voiture chargée de bagages, mais un voyage que tous ces jeunes récemment primés faisaient ensemble et qui laissait beaucoup de souvenirs.
De toutes les sections, peinture...
Tout à fait. Non, Berlioz, justement, parce qu'il espère ne pas partir, part très tard, et il va choisir de partir en bateau. Il ira comme ça par voie fluviale maritime jusqu'à Livourne. Et entre Marseille et Livourne, il essuie d'ailleurs une tempête mémorable. Sa correspondance est tout à fait à la mesure des exagérations dont il est capable. Et on peut imaginer que lorsqu'il va mettre le pied sur le sol italien, après cette tempête, il n'est pas davantage réconcilié avec la péninsule. Il termine donc son voyage par voie terrestre, et il a beaucoup de mal à entrer dans les états du pape, parce qu'il faut bien penser que dans ces années-là, la révolte grondait en Italie. Et 1831, c'est justement l'époque où les Français songent à quitter Rome. Donc il faut une intervention du directeur de la villa pour que Berlioz puisse pénétrer dans les états du pape.
Donc le voilà arrivé à la Villa Médicis, il rencontre enfin ses compagnons de fortune, d'ailleurs un compositeur qui se nomme Montfort, et qui a reçu le prix ex aequo avec lui, avec Hector Berlioz. Il arrive donc avec un spleen très ancré au fond de lui-même, dont il aura du mal à se détacher. Qu'est-ce qui le sort de ce spleen de Rome ? C'est pas le spleen de Paris, c'est le spleen de Rome pour Berlioz.
Il aura du mal à sortir du spleen parce qu'il ne pense qu'à Camille. Et comme il ne reçoit pas de lettres de Camille, il veut retourner à Paris. Le directeur de la villa, qui était alors Horace Vernet, qui avait une très jolie fille, Louise, Berlioz ne sera pas insensible au charme de Louise, mais il ne suffit apparemment pas, puisque Berlioz, à peine arrivé, songe à repartir pour comprendre le silence de Camille. Et il ne tarde effectivement pas à comprendre, puisque, comme je le disais, Camille est partie avec quelqu'un d'autre. Il songe au suicide, il se ravise, il veut alors se déguiser en vieille femme et aller punir les imposteurs. Et puis, il se ravise et c'est à Nice qu'il s'arrête. À Nice, où il passe d'heureux jours, il le dira souvent. Il ne faut pas oublier que, lors du voyage de départ, c'est à Marseille qu'il avait découvert la mer. Berlioz n'avait jusqu'alors jamais vu la mer et qu'elle fait sur lui grande impression. Donc il passe du temps à Nice, il compose, et puis il retourne dans cette villa. Cette villa où effectivement le spleen a du mal à le quitter. Il n'aime pas Rome. Il faut dire qu'il n'arrive pas au bon moment. Cette ville n'a plus du tout la grandeur qui fut la sienne. Elle n'a plus que 150 000 habitants. Pour lui qui vient de Paris, c'est une zone d'ennui. La villa est une caserne, c'est ainsi qu'il l'appelle dans sa correspondance comme dans ses mémoires. C'est une caserne, la caserne académique. Le jardin exerce peut-être sur lui un certain charme. Il y joue de la guitare le soir à côté du jet d'eau. Il s'amuse à tirer sur les merles. Faut pas oublier qu'il avait toujours le fusil à la main. C'était un grand chasseur. Et il trouve qu'il est tout à fait inopportun d'envoyer les compositeurs en Italie, étant donné qu'à Rome, il n'y a plus de musique religieuse. Il a des paragraphes très sévères pour la chapelle Sixtine. En matière de musique religieuse, il n'apprécie pas davantage celle de Saint-Louis des Français, qui était la paroisse française de Rome. On sait très bien qu'allant écouter là une messe solennelle, avec 60 musiciens, il trouve que l'organiste joue à un quart de ton de distance de ses musiciens, que ce qu'on y entend n'est que cabalette et extrait indicible divers. Bref, il n'y a pour lui rien d'intéressant. Et ce n'est pas mieux, du reste, dans les théâtres. Au théâtre Val, il dit qu'il est un seul violoncelliste, orfèvre de son métier, mais peut-être pas dans ses prestations musicales. Donc Berlioz ne trouve rien à écouter à Rome, ni la musique religieuse, ni le théâtre, et surtout pas l'orchestre. Car il l'écrit plusieurs fois, c'est dans le domaine de la musique instrumentale que l'Italie est très nettement au-dessous de toutes les nations européennes qu'il fréquente ou qu'il va fréquenter.
Et à ce moment-là, était jouée à Paris la 9e symphonie de Beethoven, donc une œuvre orchestrale de très grande importance.
Et l'orchestre de la Société des concerts du Conservatoire date justement des années 1820. Et l'on sait quelle importance la capitale française attachait à la musique instrumentale. La musique orchestrale, comme d'ailleurs dans le reste de l'Europe, va renaître dans les dernières décennies du XIXe siècle. Donc Berlioz, qui n'est pas pianiste et dont la grande originalité, on le sait, est précisément l'orchestre, a encore d'autres raisons d'être malheureux. Alors que fait-il ? Eh bien, il sort de la villa le plus possible. Il va à Tivoli, il aime beaucoup Tivoli. Il va surtout à Subiaco, où il rencontre de charmantes compagnies. Il fait danser au son de sa guitare. Il rencontre là des femmes blondes dont on dit que c'est une colonie étrangère qui aurait ainsi prospéré dans cet endroit. Il va beaucoup plus loin même, puisque il ira à Naples. Il ira à Pompéi, il reviendra de Naples à Rome à pied, en plusieurs jours. Il va d'ailleurs à Tivoli, à Subiaco, à pied. C'est un grand marcheur et un grand chasseur, comme nous le disions. Et c'est dans cette nature italienne parfois avec ces montagnards, ces brigands, des abruzes, qu'il se trouve sans doute dans la meilleure compagnie.
Daniel Piston et Hector Berlioz, au bout d'un moment, trouvent donc ses marques à Rome. Il trouve ses marques et il fait des rencontres assez inattendues. Il rencontre Mendelssohn, alors qu'il est à la Villa Médicis.
Il aime beaucoup Mendelssohn, et comme homme, et comme musicien. Alors que Mendelssohn ne comprend pas la musique de Berlioz. Il admire tout en lui. Le fait qu'il sache dessiner, la façon dont il parle. Et je crois qu'il apprendra beaucoup de Mendelssohn. Un peu plus tard, il rencontrera aussi Glinka à Rome. Et il est certain que lors des réceptions chez le directeur de la villa, c'est-à-dire chez Horace Vernet, des réceptions que tous les pensionnaires ont redoutées dans l'histoire de la villa, certains plus tard parleront même du fait d'être de garde quand ils devaient aller chez le directeur. Mais Berlioz aimait bien Horace Vernet, voilà comment il le décrit. C'est un petit homme sec, d'une tournure élégante, obligeant, mais sensible. Fils respectueux, aimant sa fille comme un frère et sa femme comme un oncle. Chacun interprétera. On dit aussi qu'il dansait la tarentelle dans son salon avec sa fille, mais qu'il avait une poigne de fer. Le règlement était le règlement. Cela étant, il a quand même été très compréhensif avec Berlioz, puisqu'il l'a laissé revenir à Paris bien avant la échéance. Fin de la deuxième année.
L'un des paradoxes du séjour d'Hector Berlioz à Rome, c'est qu'il compose assez peu. Il compose ce qu'il faut d'œuvres imposées par la Villa Médicis et du fait qu'il est payé par l'Académie des Beaux-Arts pour y séjourner. Mais ce n'est pas une époque prolifique en termes de composition.
Absolument pas. Je crois que ce voyage l'a contrarié. L'aventure avec Camille Mock encore davantage. Il est vrai qu'il n'aimait pas la chaleur, qu'il peut souffrir de ce climat. Et puis, il n'est pas tendre pour ces jeunes artistes qui vivent autour de lui à la villa. À plusieurs reprises, il dit combien cette compagnie lui déplaît, combien le café grec auprès de la villa dans lequel il se rassemble est sale et ne ressemble pas du tout au café parisien. Il critique même le vin d'Orvieto, qu'il buvait beaucoup, à l'époque comme aujourd'hui. Et on a l'impression que rien, en fait, ne l'incite à écrire de la musique. Alors il retouche certaines œuvres antérieures, Il ne trouve même rien d'autre à envoyer à Paris, puisque les jeunes artistes devaient toujours, pour marquer leur séjour, c'était d'ailleurs la seule contrainte, envoyer une œuvre à l'Institut. Que fait Berlioz ? Pour son premier envoi, il reprend un Resurrexit qu'il avait écrit dans les années 20. Et dans les mémoires, d'ailleurs, il se moquera de ces messieurs de l'Institut qui n'y ont vu, selon lui, que du feu. Donc, on ne parle jamais des envois de Rome de Berlioz. Pourquoi ? Parce que, effectivement, aucune des partitions qu'il a écrites lors de son séjour italien n'a connu véritablement le succès. L'ouverture de Rob Roy, qui la connaît encore aujourd'hui, hein, ou bien encore le premier numéro de Tristia, opus 18, hein, qui évoque cette fois-ci davantage l'atmosphère religieuse. Il y aurait peut-être d'ailleurs encore d'autres recherches à faire sur le rapport entre Berlioz et la religion. On se souvient de cet épisode qu'il narre dans ses mémoires. Pour échapper à la chaleur, toujours la chaleur, où se réfugiait-il ? À Saint-Pierre, où, dans un confessionnal, il lisait Byron. Byron, dont on lui avait conté d'ailleurs les aventures lors de la fameuse traversée de Marseille à Livourne. Byron qui l'accompagne, certes, durant une grande partie de sa vie. Mais la marche des pèlerins d'Harold, par exemple, que représente-t-elle ? Il a écrit un jour que pour lui, la musique religieuse italienne, c'était ça, la marche des pèlerins d'Harold. On sait très bien qu'il était, Berlioz, fils d'un voltairien, hein, d'un docteur voltairien. Il se disait athée, mais je crois qu'il y a dans le rapport, ce qu'on appellerait aujourd'hui le rapport de Berlioz au sacré, peut-être encore quelque chose à découvrir. Et peut-être même qu'en approfondissant toujours davantage le séjour de Berlioz en Italie, on y trouverait encore quelque chose. Moi, il me semble quand même curieux que cette méditation religieuse, donc, qu'il intégrera ensuite dans Tristia, soit justement composée là. Il y a aussi les fameux pifferari, hein, ces fameux joueurs de musique populaire qu'il dit avoir appréciés. Pour une fois qu'il apprécie quelque chose en Italie, c'est cela, hein, et auquel il va même rendre hommage beaucoup plus tard en écrivant pour harmonium une mélodie encore inspirée par ces joueurs de cornemuse, hein, qui descendaient habillés de brun avec un chapeau pointu, hein, au moment des fêtes de Noël, ce qui l'avait beaucoup marqué. Il écrit d'ailleurs une autre pièce fort peu intéressante au regard du reste de son œuvre, qui est toujours inspirée par l'atmosphère religieuse. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose, je crois, là, à chercher en ce qui concerne le rapport de Berlioz à l'Italie et à la religion. Mais beaucoup plus intéressant que tout ça, et beaucoup plus célèbre, célèbre jusqu'à exaspérer le compositeur, ça a été la mélodie « La captive », qui est devenue une sorte d'œuvre fétiche à la Villa Médici.
Nous vous proposons d'écouter ce premier mouvement de Tristia, la méditation religieuse. Daniel Piston, que dit cette méditation religieuse ?
Alors, cette méditation, donc à six voix avec accompagnement d'orchestre, sur la traduction en prose d'une poésie de Moore, commence par les mots suivants. « Ce monde entier n'est qu'une ombre fugitive ». Il n'est pas inintéressant de mettre en rapport cette composition avec celle qui sera de loin la plus célèbre, celle qui va conquérir les artistes de la Villa et qu'il va concevoir en 1832, c'est-à-dire La Captive, cette mélodie sur un texte de Victor Hugo. Quelle strophe choisit-il ? Si je n'étais captive, j'aimerais ce pays et cette mer plaintive. Si je n'étais captive, lui qui a toujours vu la Villa comme une prison, qui s'est toujours senti en exil, c'est une expression qu'il utilise toujours pour parler de l'Italie. Il n'est pas en Italie, il n'est surtout pas dans la ville éternelle, il est exilé. Il est captif. Et le grand succès de La Captive, bon, qui est certes une mélodie assez facile d'ailleurs, Berlioz était exaspéré par ce succès, hein, comme souvent les compositeurs par une œuvre qui devient une œuvre fétiche. Mais qui sait si ce n'est pas aussi l'ironie des jeunes artistes de la Villa, qui voyaient combien Berlioz était captif, lui aussi.
Nous écoutons cette mélodie de La Captive.
Thank you.
Alors si Berlioz compose très peu pendant cette année à la Villa Médicis, il emmagasine néanmoins, on en parlait plutôt de ses escapades hors de Rome, il emmagasine beaucoup de sensations qui forcément vont l'inspirer plus tard. Et on peut considérer que plusieurs œuvres prennent forme en Italie et aboutiront par la suite. On peut dire en fait qu'il y a très peu de résultats immédiats de ses séjours à la Villa Médicis, mais qu'un travail intérieur se féconde plus tard.
Certainement. D'abord, Berlioz a 27, 28 ans. Bon, c'est un âge où on engrange
jeune.
Encore beaucoup de choses. Il n'était pas très jeune, puisqu'on ne pouvait concourir que jusqu'à 30 ans. Un musicien comme Paladil, par exemple, a eu le prix de Rome à 17 ans. Donc, il n'est de loin pas parmi les musiciens précoces qui ont obtenu ce prix. Mais en dépit du fait qu'il est à Rome à contre-cœur, que tout lui semble mauvais, il écrit même de l'Italie, comment ose-t-on écrire ça ? Jardin peuplé de singes. C'est dans la correspondance de Berlioz.
C'est très aimable pour la Villa Borghese.
Il avouera quand même plus tard, je cite, que les Italiens sont de braves personnes. Et il reconnaîtra même que certaines formes de beauté ne se rencontrent qu'en Italie, quand il sera à Subiaco, c'est vrai. Donc il est certain que ce séjour en Italie, effectué contre son gré, a été porteur de créations ultérieures, voire d'innovations. Prenons quelques exemples. Le plus connu, c'est sûrement Harold en Italie. Harold en Italie, c'est sans doute avant tout le portrait de ces figures hautes en couleurs qu'il avait rencontrées dans les Abruzzes, ces sérénades italiennes qu'il a transcrites, qui l'ont beaucoup frappé. Ces modulations qu'il comparait à l'occasion avec les chants de son Dauphiné natal, parce que je crois qu'il ne faut pas oublier non plus qu'en termes de nature, il aimait beaucoup les Abruzzes, il a trouvé de magnifiques paysages en descendant vers Naples, mais il en revenait toujours aux paysages de sa contrée natale. Et il écrira en revenant d'Italie, et en se retrouvant dans son Dauphiné natal, que l'Italie ne vaut pas sa patrie. Donc, je crois que s'il a découvert la mer à cette époque, dont on ne peut pas dire qu'elle est chez lui, apparemment, apporté beaucoup. Berlioz n'est pas Debussy. En revanche, il y a une qualité de musique, et peut-être avant tout populaire, qu'il frappe en Italie. On a déjà vu tout à l'heure ces musiciens ambulants qui descendaient des montagnes au moment de Noël et dont le chant simple le frappait. Un chant simple et qui était à l'opposé de toutes ces roucoulades qu'il détestait dans l'opéra italien. C'est cette forme de naturel, je crois, de la musique populaire italienne qui ressort d'abord dans sa musique. Un chant simple qui peut être religieux, j'y faisais allusion tout à l'heure. Et non seulement un chant simple, mais aussi un certain type d'animation. Et là, bien sûr, je pense à l'ouverture du carnaval romain, un carnaval qu'il détestait. Il a écrit des pages atroces sur le carnaval de Rome, que tous ses camarades aimaient, mais où lui ne se retrouvait pas. Il n'empêche qu'il a laissé à la postérité une belle ouverture intitulée donc « Le carnaval romain ». Dans Harold en Italie, il y a non seulement la sérénade du montagnard des Abruzzes, il y a le chant des pèlerins, dont Berlioz disait « Oui, la musique religieuse italienne, c'est ça, c'est cela même ». Et il y a surtout l'orgie de brigands. Car le terme « brigand » est un terme qui émaille les écrits de Berlioz durant son séjour italien. En voiture, il a peur des brigands. Quand il fait ses excursions à pied, il évoque les brigands. Il en connaît quelques-uns. Un certain même lui rend visite jusqu'à la Villa Medici pour avoir quelques sous. Et il est certain que la fameuse orgie de brigands qui va clore Harold est une vision importante de l'Italie de l'époque. Parce que il ne faut pas oublier encore autre chose, c'est la question des tempéraments. Quand on lit la correspondance de Berlioz, durant son séjour romain, on peut être frappé par le fait qu'il dit que les Italiens ont l'air endormis. Pourquoi ? Il ne faut pas oublier que le tempérament romain n'est déjà pas le tempérament napolitain ou le tempérament d'autres régions. Et il est vrai qu'il y a à la fois à Rome, Rome ville éternelle, hein, Rome qui a eu, je crois, 1 million d'habitants déjà hein, dans l'époque antique. Il y a un certain air de supériorité du romain, comme il y a aussi un relatif abandon. Et je crois que le tempérament du bouillant Hector ne s'accorde pas avec le tempérament romain, ça me semble évident. En revanche, la malice du brigand, l'astuce du révolutionnaire, ces fameuses, au moment des agitations du début des années 30, les fameux Trasteverini qui venaient jusqu'à la villa, ça lui plaît. Le fait qu'Horace Vernet déclare qu'il n'aime pas l'Académie, ça lui plaît aussi. Berlioz est un révolutionnaire, tous azimuts. Et il aime finalement beaucoup mieux le tempérament d'un brigand des Abruzzes que celui d'un Romain bien placé. Donc, je crois que c'est tout à la fois une inspiration musicale, mais aussi certainement quelques images de personnages hauts en couleur qui inspirent Harold, qui inspirent le carnaval, et peut-être même d'autres détails. Quand il est allé par exemple à Pompéi, il a découvert des cymbales antiques. Des cymbales antiques qu'il va réutiliser ensuite. Berlioz est curieux de tout. Et s'il s'ennuie à Rome, c'est justement parce que Rome ne présente pas l'agitation de Paris.
Un aspect aussi de Rome qu'il découvre, enfin, duquel il va s'inspirer, c'est la Rome antique. Ce sont les poèmes de Virgile qui vont inspirer ensuite les Troyens. La Rome antique que lui fait visiter Mendelssohn.
Il est vrai qu'il a aimé le Colisée, oui. Mais il est vrai aussi que Virgile lui a été transmis par son père, par sa famille. Donc il y a une espèce de résurgence là qui ne le frappe peut-être pas tout de suite, puisque c'est un type d'inspiration qui arrivera chez lui dans les années 50. Donc vous voyez, Harold 1834, le carnaval romain 1844, et puis les Troyens encore 10 ans plus tard, on peut dire qu'à chaque étape de la vie de Berlioz, quelque chose d'italien ou quelque chose d'antique a ressurgi. Donc on va finir par conclure que ce qui l'a le plus exaspéré, c'est-à-dire ce voyage en Italie dont il ne voulait pas, aura nourri toute sa carrière. Il doit en trembler dans sa tombe en m'entendant parler ainsi. Mais peut-être que ça lui aurait plu.
Est-ce qu'on peut dire en conclusion, Daniel Piston, qu'effectivement il n'a pas compris l'Italie par rapport à ses séjours ensuite très prolifiques en Allemagne ou en Russie, qui seront très différents de son séjour en Italie en comparaison?
Ah oui, mais avec les Allemands ou avec les Russes, il trouve des musiciens qui aiment l'orchestre. Il faut dire aussi qu'on a avancé dans le temps. Il faut dire que Liszt même, qui était un pianiste d'estrade, se met lui aussi à l'orchestre dans les années 50 et qu'il aidera considérablement Berlioz. Donc, les temps ont changé. Comme je le disais au début, il est dommage que Berlioz ait connu Rome au début des années 1830. Et qu'il l'ait connu surtout dans les conditions qui étaient les siennes, c'est-à-dire qu'on l'arrachait à un milieu parisien où il espérait faire carrière, on l'arrachait à des amours dans lesquels il croyait. Rien, si vous voulez, ne pouvait favoriser cette rencontre. On ne dira pas aujourd'hui que c'était dommage, puisqu'on a vu que les résultats sont néanmoins là.
Merci beaucoup, Daniel Piston. Je signale à nos auditeurs que toutes les références bibliographiques et toutes les références de musique sont disponibles sur notre site www.canalacademie.com. Merci beaucoup. Bonne journée.